Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ça? Où ça se trouve? Qui l'a construit? Combien d'ouvriers ont construit ça? Pendant combien de temps? Alors, combien d'ouvriers ont construit ça? Il y en a qui connaissent bien l'architecture mondiale, c'est ça? Où ça se trouve? À une heure de route d'ici, en gros, d'accord? Dans la Drôme. Une personne a construit ça. Pendant combien de temps? Ouais, une trentaine d'années. Une personne a construit ça, tout seul, pendant une trentaine d'années. Cette personne s'appelle Ferdinand Cheval. C'était un facteur. Il ramassait des cailloux pendant ses tournées sur le chemin. Et puis, avec ses cailloux, il a construit cette espèce de chose qui appelait le palais idéal du facteur Cheval. Donc, à une heure de route d'ici, dans la Drôme, à Haute-Rive. Le chrétien qui persévère ne laisse pas l'évangile derrière lui. Le texte qu'on va survoler ce matin se trouve dans la dernière partie de la Bible qui s'appelle l'Apocalypse. C'est un texte un peu particulier, mais qui est très intéressant. Ce texte a été écrit par Jean, un des compagnons apprentis de Jésus qu'on appelle un disciple. Vous le voyez là, sur sa petite île. Il est à ce moment-là en exil sur une île au large de la Grèce. On est environ dans les années 90. À ce moment-là, les idées de Jésus avaient fait leur bout de chemin. Jésus était mort aux alentours de l'année 30, 33, et ensuite pendant quelques années, jusqu'aux années 50, 60, et bien les idées de Jésus se sont répandues comme ça dans l'Empire romain autour de la Méditerranée. Et les premières églises, les premiers chrétiens se sont formés, et on est en 50-60, il se passe encore en gros une génération jusqu'à l'écriture de l'Apocalypse par l'apôtre Jean, qui avait connu Jésus à l'époque, hein, c'était un de ses disciples, qui a donc maintenant 80 ans environ, quoi. À qui s'adresse ce texte? Jean adresse ce texte à des églises qui se trouvent dans l'actuelle Turquie, qu'on appelle en fait à l'époque l'Asie mineure. Sept églises, dont une, la principale, Éphèse, qui était un petit peu le centre d'où sont partis un petit peu ces premiers chrétiens et formés d'autres églises, donc un groupe de sept en Asie mineure. Donc vous voyez Jean sur sa petite île, et puis au loin, de l'autre côté de la mer, il voit au loin là-bas les sept églises d'Asie mineure. Quel est le sujet de ce qu'il écrit? Pourquoi est-ce qu'il écrit? À cette époque-là, les chrétiens ont, on va dire, une génération d'histoire, mais l'Empire romain n'a pas toujours été ami avec les idées de Jésus, pour plein de raisons. Et ça dépendait aussi des empereurs et des régions. Mais à ce moment-là, dans les années 90, les chrétiens, ils n'étaient pas bien, parce qu'ils étaient persécutés. Il y avait aussi des déviances doctrinales, sectaires. Donc l'objectif de Jean est d'encourager les chrétiens, les encourager, les avertir aussi, et les encourager en leur montrant le sujet, l'objet en fait de leur espérance, Jésus. Les chrétiens, ils croyaient dans ce Jésus qui était mort pour eux et ressuscité, et ils avaient cette foi qui reviendrait, mais il ne revient pas. Et bien Jean veut leur montrer Jésus. Le titre de l'Apocalypse, c'est « Révélation de Jésus ». Il est là, il est vivant, et on va vers lui. Alors comment est-ce qu'il écrit tout ça? Le style de l'Apocalypse est particulier, hein, vous le savez tous, presque tous, c'est particulier. En fait, c'est simplement que Jean, comme s'il décrivait un rêve, c'est très imagé. Il y a un peu des tableaux comme ça, très caricaturaux, très, très esthétiques. Et là, typiquement, ce texte qu'on va lire ce matin, il fait partie de ces tableaux. Et ce tableau, il est simple. Vous avez Jean qui regarde au loin les sept églises. Mais en fait, lui, il voit comme si Jésus était au milieu de ces sept églises, représenté à chaque fois par un chandelier, une bougie, comme une bougie avec une flamme. Et ce Jésus qui est là, qui a quelque chose à dire à ces églises. Ok ? Et donc le texte qu'on va lire aujourd'hui, c'est le message pour la première église. Donc l'église d'Éphèse. Voilà, je vais lire donc à partir donc chapitre 2, Apocalypse 2, verset 1, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Ne pas se lasser de travailler. Jésus constate donc, je connais tes œuvres, je sais. Qu'est-ce qu'il constate ? Tu travailles dur, tu surveilles bien et tu endures toujours sans te lasser. En gros, tu persévères, c'est bien. Celui qui avait amené les idées de Jésus à Éphèse, à l'époque, les années 50-60, c'était Paul et puis ses compagnons, l'apôtre Paul, le fameux. Il a passé 2-3 ans là-bas à Éphèse et en fait, à un moment donné, il a dû quitter cette église, il savait qu'il ne les reverrait plus jamais. Et on a un texte comme ça dans la Bible qui nous parle de ce moment où il va voir les responsables et il a une discussion super solennelle et vraiment chargé émotivement. Je vais vous lire un extrait dans Acte 20, qui leur dit ça, Paul, quand il quitte l'église, les responsables. « Veillez donc sur vous-même et sur tout le troupeau de l'église que le Saint-Esprit a confié à votre garde. Comme de bons bergers, prenez soin de l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son sacrifice. Je le sais, quand je ne serai plus là, des loups féroces se glisseront parmi vous et ils seront sans pitié pour le troupeau. De vos propres rangs surgiront des hommes qui emploieront un langage mensonger pour se faire des disciples. Soyez donc vigilants, etc. etc. » Hein, vous voyez, donc Paul, il les quitte, il leur dit « Faites gaffe, veillez, surveillez, tenez bon. » Et puis, 30 ans plus tard, Jean qui écrit cette lettre, « Tu travailles dur, tu surveilles bien, tu endures toujours. » Check, hein ? C'est bon, ça c'est fait. C'est un peu comme si pour nous, ben, on parlait des années, milieu des années 80, en gros. Hein ? Comme si pour notre église, là, aujourd'hui, ben, il y avait le fondateur, hein, l'apôtre Paul, qui est parti maintenant depuis 30 ans. Et il nous avait dit un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, nous, en tant qu'église chrétienne évangélique de Grenoble ? On travaille dur. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Bon, on travaille dur, hein, ok, on travaille dur. En toute humilité, hein, bien sûr. Hein. On surveille bien. Alors surveiller, c'est quoi ? C'est, ouais, il faut veiller, est-ce que ce qu'on fait, c'est bien ? Est-ce qu'il y a un équilibre ? On surveille bien. On tient bon, sans se lasser. Et pour Dieu. Ok. Vous avez vu que dans ce texte, en fait, Jésus, il ne dit pas « Bravo pour tes œuvres, ton travail et ta persévérance. » Franchement, tu m'épates avec ton travail, ta persévérance. Il dit quoi ? Il dit « Je connais, je sais. » Ça m'a fait réfléchir aussi à ma relation perso avec Dieu. Première chose, je travaille dur. Est-ce que je travaille dur, moi, dans ma relation avec Dieu ? Ouais, c'est vrai, il y a un côté, ben, je travaille, quoi. J'essaye de... J'ai pas envie tous les matins d'ouvrir ma Bible, mais bon, parfois, il faut que je me prenne en main, quoi. Je travaille dur. Qu'est-ce qui peut... Ouais, ou aller à une telle rencontre ou telle rencontre de l'Église, ben, ouais, il faut se prendre en main, il faut travailler, surveiller. Il faut surveiller sa relation avec Dieu aussi, oui. Ben, je surveille bien ma relation avec Dieu. Hein, vous voyez où on peut aller, ben... Et j'endure aussi, sans me lasser. Ça fait des années maintenant. C'est bien, ok, on pourrait faire ce constat. Qu'est-ce que Jésus dit ? Il ne dit pas bravo, il dit je connais, je sais. Je prends encore un autre exemple. Je suis marié maintenant depuis 5 ans avec Joséphine qui est partie pour l'occasion avec Abel. Ça m'a fait réfléchir à ma relation aussi avec ma femme. Je travaille dur. Je surveille bien. Attention. Je surveille. Et j'endure sans me lasser. Il y a un côté qui est vrai, en fait. Il y a un côté qui est... Ben, ceux qui sont mariés, vous allez me dire, oui, c'est vrai. Mais, je me rappelle, franchement, il y a 5, 6, 6 ans, même avant le mariage, on pouvait se poser sur un banc et juste profiter. C'était trop bien. La dernière fois, je me suis posé avec ma femme sur un banc juste pour profiter. Ben, c'était pas hier, quoi. Et, vous voyez ce que... Je travaille dur, je surveille bien, j'endure, mais... Ne pas se lasser de travailler, mais se lasser de l'Évangile. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Est-ce que vous voyez ce que c'est ? C'est une forme bizarre. Ceux qui connaissaient le bâtiment tout à l'heure, vous savez ce que c'est ça ? Ah, c'est ça. Le facteur cheval, un jour, vous savez qu'à l'époque, ils n'avaient pas les voitures jaunes avec la poste dessus, ils faisaient ça à patte. Okay, facteur cheval, ça tournait, c'était 30 bornes, 30 kilomètres, tous les jours. Et un jour, sur son chemin, alors l'histoire dit qu'il aurait trébuché sur une pierre, bon, en tout cas, il a remarqué une pierre, celle-là. Et il est devenu complètement gaga de cette pierre. C'est de là que tout a commencé. Cette pierre, c'était une étincelle qui a déclenché une passion chez lui, une passion pour les cailloux. Et ça a déclenché un rêve. Il a voulu construire quelque chose avec ces cailloux. Et c'est de là que tout est parti. C'est son amour du début, son petit nuage. Une passion soudaine qui l'a porté et lui a permis de tenir jusqu'au bout. Ce que j'ai contre toi, c'est un reproche, on dirait. En tout cas, un avertissement. Et le message passe, et c'est un message qui est récurrent dans ces 7 lettres aux églises, là dans l'Apocalypse. Attention, attention. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé tomber, abandonné, laissé tomber, oublié, ton premier amour, l'amour du début, le meilleur amour. Éphèse a retenu qu'il fallait travailler sans se lasser, mais Éphèse a oublié l'étincelle du début qui lui avait donné son identité, sa raison d'être. On a un peu des infos dans le livre des Actes sur comment s'est passé ce début, hein, ce fameux début, l'amour du début. On a quelques anecdotes. Paul y restait à peu près 3 ans avec des petites coupures. Et puis, les premières semaines ont passé, les premiers mois ont passé, et de plus en plus de personnes ont découvert un Dieu qui pardonne. C'était nouveau. Un Dieu qui ne calcule pas avec la religion juive ou avec les superstitions païennes. Non, il ne calcule pas avec ça. Il pardonne. Il donne sa vie pour pouvoir pardonner. Un Dieu qui enlève le poids de culpabilité, qui donne une nouvelle identité pour une nouvelle vie. C'est ça ce qu'on appelle l'évangile dans la Bible. Ça veut dire une bonne nouvelle. Évangile, bonne nouvelle. Ils ont découvert ça, les Éphésiens. Et je vous partage 2 anecdotes qu'on trouve dans l'histoire de cette église, dans la Bible. La première, c'est à un moment donné, apparemment à Éphèse, ils aimaient beaucoup la magie, sorcellerie, et... Il y en a beaucoup qui pratiquaient ça, qui ont découvert l'évangile. Et à un moment donné, il racontait que dans la ville, ils ont tous pris leur parchemin, vous savez, les vieux grimoires de magie et trucs, ça valait une fortune. Hein, il n'y avait pas Wikipédia sorcellerie. Hein. C'était des grimoires, il y en avait un, et peut-être une copie par-ci, par-là, ça valait une fortune. Ils ont tout mis au milieu de la ville, ils ont brûlé ça. Imaginez l'ambiance collective. C'est qu'ils avaient une vraie raison de le faire, c'est qu'ils avaient une vraie passion pour l'évangile, ça avait vraiment changé leur vie. Un autre exemple, en fait, c'est... vous savez, à Éphèse, il y avait une des sept merveilles du monde, le temple d'Artémis. Vous voyez les temples grecs avec les colonnes ? Eh bien, ça, c'est la version Big One, c'est une version gigantesque, quoi. Un énorme temple, une des sept merveilles du monde. Et les Éphésiens, ils étaient fiers de ce temple et de la déesse Artémis. Et en fait, l'anecdote qui est racontée, c'est simplement que il y avait des marchands de miniatures de temples d'Artémis, des porte-clés pour les touristes. En fait, ils avaient vu que tout le monde devenait chrétien, tout le monde était touché par cet évangile, ils n'avaient plus de clients et leur business ne marchait plus. Mais encore une fois, imaginez un peu là, le contexte, ces premiers mois, ces premières semaines où l'évangile débarque et waouh, tout le monde est fan, quoi. Ça a changé toute la ville. Les Éphésiens avaient découvert un trésor. Je reviens sur le petit dessin et vous voyez que la grande église du milieu, là, la grande bougie, la flamme a disparu. J'ai essayé de réfléchir un peu pour moi, qu'est-ce que c'est en fait mon premier amour avec Jésus, mon amour du début avec Jésus. Et je pense que tous les chrétiens dans cette salle, on a chacun une histoire différente. Et ça vaut le coup d'essayer de se souvenir. Moi, j'avais découvert un Dieu qui m'a créé. C'est lui qui savait pourquoi j'existais. Ce Dieu-là, il était parfait, bon. Et moi, j'existais pour être parfait, bon. Et j'essayais. Mais dans mon cheminement, j'étais arrivé à un point où j'arrivais pas, en fait, à être parfait. J'ai dû reconnaître ma faillite. Et j'ai baissé les bras. Et ce Créateur, il m'a dit, avec la Bible, et il m'a montré qu'il avait donné sa vie pour payer le prix de mon incompétence. J'étais aimé, j'étais pardonné. Dieu m'a donné en fait une nouvelle identité, une nouvelle vie. Plus de poids de culpabilité, plus de choses à devoir faire pour lui prouver quoi que ce soit. J'étais une nouvelle créature grâce au don de la vie de Christ, grâce à cette croix. Mon premier amour à moi, c'est moi devant cette croix. Et j'ai réfléchi aussi aux symptômes. Qu'est-ce que dans ma vie me montre que j'ai perdu ce premier amour ? Alors je me suis fait cette réflexion, peut-être que quand je remarque que j'ai moins envie d'intimité avec Jésus, parce qu'au début c'était ça, j'avais envie d'être proche de Dieu, de le connaître, de savoir qui il est, comment il fonctionne. Il y a la question des sentiments aussi, alors ça dépend des personnes, il y en a qui sont plus ou moins sentimentaux. Moi, j'ai un côté sentimental, et ça me portait. Il y a l'effet « waouh » aussi. Au début, même si pour moi ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, c'était une période où j'ai découvert cet évangile, une période « waouh » quoi. Et cet effet « waouh », on peut le perdre, vous voyez ? Ne pas se lasser de travailler, mais se lasser de l'évangile, c'est se lasser de notre rêve. Je vais lire la suite, verset 5. « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. » Et verset 7, la fin. « Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Comment faire pour retrouver ce premier amour ? Eh bien, la Bible, c'est trop bien. Il y a un tutoriel en 3 étapes. Ok ? Première étape, se souvenir. Se souvenir. C'est un peu ce que j'ai essayé de faire tout à l'heure. C'est un vrai travail de mémoire, en fait. C'est pas juste « Ah tiens. » En fait, on pourrait se poser quelques minutes comme ça, une demi-journée. Vous prenez votre voiture, vous allez dans la montagne, il n'y a rien, vous avez une demi-journée, vous réfléchissez. Travail de mémoire. Vous ressortez des vieilles photos, vous savez, de l'époque où vous avez rencontré Christ. Mémoire. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Qu'est-ce que je ressentais à cette époque ? Qu'est-ce qui me faisait vibrer ? Comment je le vivais ? Qu'est-ce qui était différent dans la pratique, dans ma vie ? Essayer un peu de dresser un tableau. Bah, j'étais comme ça, je faisais ça, je faisais ça. Ça me faisait vraiment... Ça me faisait vibrer. Ensuite, deuxième étape, repens-toi. C'est quoi se repentir ? Il y a deux choses dans la repentance. Il y a un regret profond et un désir de changement. C'est ces deux choses. À partir du moment où on a dressé le tableau de comment c'était à l'époque, eh ben, il y a le regret profond et on veut changer aussi, un désir de changement. Et ensuite, troisième étape, refaire. Faire comme avant. Pratique tes premières œuvres. Je reprends l'exemple du mariage. Je parlais du banc tout à l'heure. Mais en fait, quand il y a ce regret de comment c'était avant, ce désir de changement, en fait, on a envie du coup que ce soit comme avant. Donc, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est juste que si on ne fait rien, si on ne prend pas le téléphone, l'agenda et qu'on dit, ben, tiens, à telle date, je bloque, je vais faire un resto avec ma femme, ça ne va pas beaucoup changer, vous voyez ? Il y a quand même cet aspect pratique qui vient à la fin, un déclic. Eh bien, je prends mon agenda et j'y vais. Dans ma relation avec Dieu, c'est pareil. Après cette étape repentance, je prends mon téléphone, je vois l'application Bible, ah ben tiens, elle est passée derrière, hop, je la remets devant. Je l'ouvre. Vous voyez, on finit par le côté pratique, pratiquer les premières œuvres, comme au début. Alors, c'est pas forcément... On n'éprouve pas forcément les mêmes sentiments, c'est pas forcément une situation identique, parce qu'on a évolué, et du temps qui est passé, mais c'est inspiré par la même passion, par l'Évangile. Je reviens à notre copain facteur. Il est tombé sur ce caillou. Ensuite, il faisait son tour avec une brouillette, il ramassait ses cailloux, et le soir, ou je ne sais pas quand, bah, il construisait son palais. Imaginez, le facteur cheval, au bout d'un moment, je ne sais pas, 2-3 ans, il aurait pu se dire... Genre, il découvre les parpaings, là, vous savez, les moellons en aggloméré de béton là, qu'on assemble Lego après Lego avec du ciment. Waouh, c'est trop bien! Puis il aurait pu acheter 2-3 palettes, acheter une bétonneuse aussi, faire du ciment. Et puis, ah tiens, on peut aussi mettre des barres en acier comme ça, on fait un coffrage, on coule du béton, ça fait du béton armé, c'est trop cool. Il va louer les services d'un ingénieur béton, acheter une grue, une centrale à béton, il fait un énorme bâtiment. Il aurait pu, en fait. Mais pourquoi il n'a pas fait? Parce qu'il avait une passion qui était celle des cailloux bizarres. Et il voulait faire son palais en cailloux bizarres pendant 30 ans. Un chrétien, il a une passion, c'est l'Évangile. Et cette passion, elle implique un rêve. Qu'est-ce qu'on rêve en tant que chrétien ? On rêve d'être dans la présence de Christ, parce qu'il nous aime et parce qu'on l'aime. Et la fin du texte parle de ça. Vous voyez, souviens-toi, repens-toi, pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Vous vous rappelez de cette bougie-là ? En fait, si cette bougie, cette église n'a plus le désir d'être auprès de Christ, ben, en fait, elle s'en va, c'est juste normal, quoi. Elle n'a plus à être là. Le rêve perdu. Mais regardez à la fin. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Le rêve réalisé, pour toujours, avec Christ, avec Dieu, dans le paradis. Et pour ça, rappelez-vous le tutoriel, se souvenir, se repentir et refaire. Le facteur cheval, il a terminé son palais en 1912 et il grave sur une partie du bâtiment là. 1879-1912, 2 points. 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuves. Il n'a pas le droit d'être enterré dans son palais, parce que c'est comme ça la loi. Donc en fait, il va construire un deuxième petit bâtiment dans le cimetière pour pouvoir y être enterré. Donc il finit sa vie là-dedans. Et puis les années passent. Le palais vieillit, il commence à... Forcément, un bâtiment, ça part avec le temps. Puis un jour, quelqu'un qui s'appelle Malraux, en 1969, décide de le classer au monument historique. Pourquoi ? Je cite, « C'est la seule œuvre d'architecture naïve au monde. » Bon, on ne va pas faire un cours d'architecture, mais en gros, c'était unique, quoi. Et à ce titre... eh ben, ils ont décidé de classer monument historique pour pouvoir le conserver et que ça reste en place pour toujours, entre guillemets. Okay ? Imaginez le facteur sur son chemin. Ça donne ça. Jamais il n'aura oublié sa passion et chaque caillou ramassé sur son chemin de facteur et posé sur son palais lui rappelait sa rencontre avec la pierre du début. Le chrétien qui persévère ne laisse pas l'évangile derrière lui. Amen.